Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Vous venez, Jacqueline, on va se mettre là au milieu. Bienvenue à tous et merci d'être ici ce soir pour la conférence de Madame Jacqueline Liechtenstein que nous avons le plaisir de recevoir. Professeure de philosophie de l'art émérite à l'Université Paris-Sorbonne, Madame Liechtenstein a également enseigné cette discipline aux États-Unis. Elle a écrit plusieurs livres consacrés à la théorie de l'art, « La couleur éloquente » chez Flammarion en 1989, « La tâche noire »,« La tâche aveugle » chez Gallimard dans la collection Essai en 2003, « Les raisons de l'art » toujours chez Gallimard dans la collection Essai en 2014. En collaboration avec M. Christian Michel, elle a dirigé l'édition complète scientifique et critique des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture, parue en 11 volumes à Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2008-2016. Ce soir, Mme Liechtenstein va nous parler de faux, copie, l'autre, je ne sais plus. Faux, pastiche, copie, je crois que c'est dans l'ordre. Et je voulais vous remercier vraiment d'être ici ce soir pour nous parler de cette conférence tant attendue. Merci beaucoup.
Merci. Bien, ben bonjour, bonsoir plutôt. Et alors aujourd'hui, donc oui, je donnais dans mon titre copie pastiche faux, c'est-à-dire que je sors vraiment du, pour ceux qui me connaissent, de mon domaine habituel de recherche sur la théorie de l'art au XVIIe siècle ou sur la couleur. C'est un nouveau domaine que j'explore. Bien. Alors, faux, alors réplique, je n'ai pas mis réplique dans mon titre, je crois, faux, réplique, pastiche, copie, citation. Chacun de ces termes renvoie à des objets ou des intentions. On verra tout à l'heure que la question de l'intention est extrêmement importante. Donc, chacun de ces termes renvoie à des objets ou des intentions de type différent. Et ce qui m'intéresse ici, c'est, comme je vais essayer de vous le montrer dans un premier temps, c'est que les frontières entre la copie, le pastiche, la réplique et le faux sont en fait très poreuses. Il n'y a pas de délimitation aussi nette. Alors, on peut les distinguer essentiellement, principalement, en fonction de deux critères. D'une part, ce que j'appelle le critère du référent, c'est-à-dire le rapport de l'objet à l'original. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est l'intention. Ces différents types, copie, pastiche, faux, réplique, n'obéissent pas à la même intention. Alors, je vais examiner ces deux critères l'un après l'autre. Le premier critère qui permet de différencier de manière provisoire, parce qu'après ça se confond, la copie du pastiche ou du faux, j'ai dit que c'était le référent. Alors, la copie, c'est-à-dire le rapport à l'original. La copie, dans sa définition la plus simple, est une reproduction à l'identique, ou en tout cas qui se veut ressemblante, d'un original. Donc la copie est dans un rapport copie-original. Le problème tout de suite qui surgit, c'est qu'il y a des copies qui sont des originaux. C'est ce qu'on appelle les répliques autographes. Les peintres ont toujours fait des répliques, c'est-à-dire différentes versions de leurs tableaux. Ces versions peuvent être identiques à l'original. Alors, original ici a le sens d'originaire, de premier et pas d'unique, ou contenir des variations. Et le problème, c'est que la réplique, on appelle la réplique autographe, soulève un vrai problème théorique puisqu'elle met en cause, ou elle est un défi, à l'une des définitions traditionnelles de l'art, de l'œuvre d'art, à savoir son unicité. La réplique met en cause cette définition, donc elle contredit l'idée courante de l'art. Alors, je vous donne quelques exemples. Ici, Van der Weyden, qui réalise donc Saint-Luc dessinant la Vierge entre 1435 et 1440 pour la guilde de Saint-Luc de Bruxelles. Mais quatre versions sont disséminées dans les grands musées. Alors on pense aujourd'hui que le tableau de Boston, qui est à gauche, est l'original. Donc vous avez à gauche le tableau qui est à Boston, ensuite vous avez l'Alte Pinakothek à Munich, et en dessous le musée de Groningue et l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Hein. Bon, mais donc on pense aujourd'hui que c'est celui de Boston qui est l'original, mais les spécialistes débattent toujours pour savoir si les autres versions sont des répliques ou des copies d'ateliers. Deuxième exemple bien connu, les deux vierges au rocher de Léonard, celle du Louvre et celle qui est à Londres à droite. Autres exemples, là, souvent des exemples, je passe, j'aurais pu en choisir d'autres. Alors ça, excusez la qualité épouvantable des photos qui viennent, ce sont des photos que moi j'ai prises au musée capitolin à Rome au moment où je commençais à travailler sur cette question, hein, et je suis une très mauvaise photographe. Donc ça, c'est la deuxième version, c'est de Guido Reni, la deuxième version du tableau qui est à Gênes. Ici, on a une copie par Véronèse. C'est un musée fascinant parce qu'il contient énormément de répliques. Hein. C'est une copie par Véronèse et son atelier du tableau qui est au Palazzo Ducale. Ici, c'est une version du tableau qui est à la Galerie Borghese du Dominicain. Voilà, bon. Autre exemple, Caravage, dont on parle beaucoup en ce moment, le joueur de lutte, dont il existe trois versions. Hein. On pense que, enfin, la première version serait celle de gauche, qui est à l'Ermitage, ensuite celle du Metropolitan, et en dessous celle de Badminton House, qui est aujourd'hui une collection privée. Autre exemple, ce qu'on appelle The Mill de Claude Lorrain. Hein. On pense que le premier tableau est celui de la National Gallery et le second celui de la Galerie Doria qui serait postérieur de un an. Autre exemple, Chardin. À gauche, c'est Munich et à droite, Londres, la National Gallery. Encore Chardin. À gauche, Charlottenburg à Berlin et à droite, le Louvre. Courbet. Il y a plusieurs répliques de Jo, la belle irlandaise. Hein. Il y en a quatre, je crois. Ici, je montre celle du Metropolitan, qui est celle qui est la plus connue, hein, et l'autre, ce qui est à Stockholm. Bien. Mais les débats, bon, voilà, donc quelques exemples de répliques autographes, donc de copies qui sont des originaux. Mais les débats d'experts montrent qu'une réplique court toujours le risque de se trouver destituée au rang de copie, c'est-à-dire de ne plus être considérée comme un original, et ça on le reverra. Deuxième catégorie, le pastiche. Pastiche vient de pasticcio, qui signifie au sens propre pâté ou pâtisserie, et au sens figuré, une affaire embrouillée, pasticcio. Son usage apparaît au XVIIe siècle et est réservé à la peinture. Alors un pastiche est à peu près synonyme de « à la manière de ». Et l'histoire de l'art offre de multiples exemples de pastiches. Alors dans certains cas, il s'agissait de répondre à une demande que la rareté des originaux ne permettait pas de satisfaire. Donc voilà, exemple Hans Hofmann, qui fit des copies et des pastiches de Dürer, sur la demande des héritiers du peintre, hein, la famille Imhoff. Parfois, il signe seulement de son monogramme. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Voilà, hein, vous voyez en haut. Et là, il met aussi le monogramme, la signature de Dürer. Hein. Parfois, il ne la met pas. Parfois, il y a juste Hofmann. Et là, parfois, il ajoute le sien. Donc, il met un double monogramme. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de tromper. Il ne s'agit pas de tromper. Hein, il s'agit de montrer que c'est lui qui l'a fait, mais que voilà, c'est un pastiche de Dürer. Cette question du double monogramme, je vous donne un autre exemple qui est très fascinant, c'est la Vénus accroupie de Coisevaux qui est au Louvre, hein, qui est une copie. Vous voyez que Coisevaux, il a signé son nom et en grec. En grec, il a signé le nom du sculpteur grec. Donc ça, c'est le pastiche. Ensuite, nous avons le faux. Alors, le faux se distingue de la copie et du pastiche en ce sens que c'est un original, même si tous les éléments qui entrent dans la composition d'un faux ne sont pas forcément originaux. Un faux est souvent fait de morceaux empruntés à divers tableaux, c'est comme un puzzle, à divers tableaux du maître. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme vous le verrez tout à l'heure, les faux Vermeer, qui font partie des plus célèbres faux de l'histoire de la peinture, les faux Vermeer qui ont été peints par Van Meegeren, ne sont pas des copies ni des pastiches de tableaux existants de Vermeer. Ce sont des œuvres originales, au sens où elles ne reproduisent pas un modèle. J'insiste là-dessus, c'est que faux s'oppose à authentique et pas nécessairement à original. Mais cette définition du faux comme original ne vaut que pour ce que j'appellerais, excusez le néologisme, les vrais faux. C'est-à-dire ceux qui impliquent une création, une invention. Car il y a des faux qui ne sont pas des créations originales. Une copie ou un pastiche peuvent devenir un faux si on les fait passer pour vrai. D'où le deuxième critère que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est celui de l'intention. Il est nécessaire de faire intervenir un deuxième critère, en plus du critère référentiel, qui est celui de l'intention, critère qui est susceptible de s'appliquer à tous les faux, qu'ils soient des œuvres originales ou des copies. Le faux implique une intention de tromper. Ça répond à un acte intentionnel. On est donc là avec le faux dans ce que j'appellerais une problématique de la croyance. Il s'agit de faire croire à quelque chose que je sais ne pas être ce que je prétends qu'il est. Donc, je répète, je reconnais que ma phrase est un peu compliquée. Il s'agit de faire croire à quelque chose que je sais ne pas être ce qu'il prétend qu'il est. Alors, il ne suffit pas qu'une copie passe pour un original. Alors, c'est là où les distinctions deviennent très fines. Il ne suffit pas qu'une copie passe pour un original pour être un faux. Il est nécessaire qu'on veuille le faire passer pour un original alors que l'on sait que ça n'en est pas un. C'est-à-dire que le faux relève du mensonge, qui est un acte intentionnel, non de l'erreur. Vous voyez la distinction entre erreur et mensonge. Le mensonge est un acte intentionnel. Le menteur, il sait la vérité. Le faux, c'est pareil, c'est un acte intentionnel. Alors, on connaît par exemple de nombreux exemples de copies que l'on a longtemps cru être des originaux, mais ce ne sont pas des faux parce qu'on est là dans le registre de l'erreur, pas dans celui du faux. C'est des problèmes d'attribution, c'est le travail des experts et des historiens de l'art. Il y avait une exposition magnifique il y a quelques années à Londres qui s'appelait « Fake Mistakes, Forgeries ». Où la National Gallery, ça c'est très anglais, avait exposé ses propres erreurs. Donc c'est les faux qu'elle avait achetés. Alors elle distinguait bien, l'exposition distinguait bien les erreurs, ça c'est pas des faux, et les faux. Voilà. Alors on connaît aussi de nombreux exemples de copistes tout à fait honnêtes, dont les productions ont été utilisées à des fins malhonnêtes. En ce cas, l'auteur du faux n'est pas celui qui le fabrique, mais celui qui le met en circulation, en l'occurrence le marchand. Alors, le cas le plus célèbre, c'est évidemment la tiare de Saïta Farnes. La tiare de Saïta Farnes a été achetée très cher en 1896 par le Louvre. Elle a été achetée très cher, je donne que le résumé de l'histoire, comme un exemple très rare d'art gréco-scythe. Quelques années plus tard, cette tiare s'est avérée être l'œuvre d'un orfèvre d'Odessa, Israël Roukomovski. Ceux qui lui ont commandé ce travail lui avaient fait croire qu'il s'agissait d'un cadeau pour un professeur d'archéologie. Donc lui, il avait fait cet objet en toute bonne foi. Et donc lors de l'enquête, quand on s'est aperçu que c'était un faux, on l'a fait venir. Voilà. Il a été reconnu que l'orfèvre n'était pas un faussaire, qu'il n'avait pas eu l'intention de tromper. Donc on le voit, les frontières, comme je le disais, sont très poreuses. Quand est-ce qu'une copie ou un pastiche deviennent des faux ? La réponse à la question n'est pas simple. Et si l'intention de tromper est le critère, comme je le disais, comment identifier une intention ? Alors, un des moyens pour identifier l'intention de tromper, c'est la signature, l'usurpation de signature. C'est en effet, donc s'il y a usurpation de signature, on suppose qu'il y a intention de tromper. Alors, C'est en effet aujourd'hui un critère essentiel du point de vue juridique. Le problème, c'est que d'une part, les artistes n'ont pas toujours signé leurs œuvres. Par ailleurs, notre conception de la signature comme critère d'authenticité s'accorde mal avec la pratique de l'atelier. Les élèves, la pratique médiévale, renaissante, mais même qui a pu durer encore beaucoup plus longtemps, les élèves signaient les tableaux du maître et le maître pouvait signer aussi les tableaux des élèves. La signature au Moyen-Âge, par exemple, est une marque de fabrique. En Flandre, pour donner un exemple, il est très difficile de distinguer copie, pastiche, faux, au point qu'on peut se demander si ces distinctions ont même un sens. Je donne un exemple, un tableau de Jacques Daret. Jacques Daret passe 10 ans chez Robert Campin avant de devenir apprenti. C'est un tableau qui est à la National Gallery. Daret et Van der Weyden étaient tous deux apprentis chez Campin à Tournai en même temps. Qui a peint quoi ? Le travail en commun est une pratique habituelle qui va perdurer très longtemps, puisqu'on trouve Raphaël, on peut citer les grands exemples de Raphaël, de Rembrandt, de Rubens. L'idée de l'autographie, c'est-à-dire l'idée que le peintre serait le seul auteur de son œuvre, est une vision tout à fait romantique de l'artiste qui ne correspond pas du tout à la réalité. La fétichisation de la signature n'a pas toujours existé. Elle est liée, cette fétichisation de la signature, elle est liée au marché de l'art. Les marchands y ont toujours accordé beaucoup plus d'importance que les artistes, à l'exception évidemment des artistes formatés par le marché qui pullule aujourd'hui. Pline, par exemple, raconte que Phidias autorisait certains de ses meilleurs élèves à signer de leur propre nom des sculptures dont il était l'auteur. Inversement, des peintres pouvaient signer des copies faites par les élèves de leur atelier. Et leur signature transformait la copie en originale. Ça permettait aux peintres notamment de répondre à la demande en multipliant les exemplaires. Pour prendre qu'un exemple, Boucher faisait faire des dessins par les élèves de son atelier d'après ses modèles et les signait une fois achevés pour les vendre. Et les dessins de Boucher se vendaient très cher et étaient très à la mode. Mais les peintres pouvaient aussi prêter leur signature pour de tout autre raison. Par exemple, pour aider des peintres en difficulté. Les peintres pouvaient être généreux. Ou d'ailleurs, pas seulement les peintres. Phidias, quand il acceptait de signer des sculptures faites par ses élèves, on peut penser aussi que c'était pour aider ses élèves. Alors, on a un cas très célèbre qui fait le désespoir des historiens de l'art. C'est le cas de Corot, qui acceptait de signer les tableaux de peintres qui avaient coutume de travailler près de lui afin qu'il puisse en tirer un meilleur prix. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de faux lorsque la signature est vraie ? C'est-à-dire de la main du peintre. Il est même, là je dis, c'est le désespoir des historiens de l'art, le problème Corot. On dit toujours Corot, c'est le peintre dont il y a le plus de faux dans les musées du monde. Oui, mais sauf que beaucoup de faux de Corot, ils sont signés de la main de Corot. Il y a une anecdote très amusante, c'est qu'un jour, un visiteur est venu voir Corot pour lui demander d'authentifier un tableau qu'un marchand lui avait vendu comme un Corot. Le peintre voit le tableau et dit à ce moment-là à son visiteur qu'il n'en est pas l'auteur, c'est pas lui l'auteur. Alors son visiteur est furieux, il veut faire un scandale, il veut demander à être remboursé, il veut aller à la police, etc. Et Corot l'en a empêché en arguant de la situation difficile du peintre faussaire qui avait fabriqué le faux. Il a une famille, des enfants, il a besoin de manger, etc. Et après avoir ajouté quelques coups de pinceau à la toile, il a dit à son visiteur « Maintenant, vous pouvez certifier que je suis l'auteur de ce tableau, puisque vous m'avez vu y travailler. » Alors, cette histoire n'est pas sans évoquer une autre histoire plus ancienne, qui est la réponse que Rubens a faite à Sir Dudley Carleton. Bon, Rubens avait envoyé ses tableaux à Sir Dudley Carleton, qu'il lui avait commandé, et Carleton s'était plaint, lui avait envoyé en disant « Non, mais ça, c'est pas vous, ça, c'est votre atelier, vous ne moquez pas de moi, etc. » Et donc, à Sir Dudley Carleton, qui se plaignait donc que le peintre lui ait envoyé des tableaux exécutés par ses assistants, Rubens renvoie les tableaux et lui écrit, le 12 mai 1618, « Je les ai si bien retouchés qu'il serait malaisé de les distinguer des toiles entièrement originales. » Donc, je reviens à l'usurpation de signature. Elle n'implique donc pas nécessairement l'intention de tromper. Cela dépend du contexte, de l'époque, de l'horizon d'attente, de l'importance qu'on accorde à la signature, de l'idée que l'on se fait de l'art et de l'artiste. Signer d'un autre nom que le sien peut répondre à des intentions très diverses, par exemple, comme on le verra, à la volonté de prouver sa virtuosité, de montrer qu'on est aussi bon que le modèle, sans aucune intention de duper le spectateur. Alors, je ne développerai pas ce point, mais le critère de la signature est encore plus incertain dans le cas de la sculpture, dans la mesure où cet art ne répond pas du tout à notre critère de l'unicité. Qui est l'auteur d'une sculpture de Rodin ? C'est pas Rodin. Enfin, ou en tout cas, il faut s'interroger sur ce que veut dire, ce que signifie le mot auteur. Hein. Donc, une sculpture, c'est d'abord très souvent une œuvre à plusieurs mains, même quand il s'agit de taille directe. Hein. Par exemple, encore Pline racontait que Phidias a travaillé à une sculpture d'un de ses disciples. Hein. Donc, c'est un travail à plusieurs mains. Autre exemple, dans la vie de Robert Le Lorrain, sculpteur du XVIIIe siècle, Louis Gougenot, qui a raconté la vie de Robert Le Lorrain, raconte, je cite, que Le Lorrain exécuta pour les jardins de Versailles plusieurs figures sous le nom de M. Girardon, son maître. Par la suite, il travailla pour lui-même et eut la satisfaction de pouvoir avouer ses ouvrages. Pardon. Le problème de l'identité de l'auteur devient encore plus compliqué avec la fonte qui permet de multiplier les exemplaires. La sculpture est vraiment un art du multiple. Quand il était pensionnaire à la Villa Médicis, Falguière demandait à Carpeau, qui était resté à Paris, de trouver un fondeur pour le vainqueur au combat de coq et de signer pour lui la statue. Vous voyez ? C'est Falguière, mais ce n'est pas Falguière qui a fait la signature. Bon, mais je laisse de côté la question de la sculpture parce que ça soulève énormément de problèmes. Et je voudrais maintenant passer à une sorte de transition lente parce que justement on est dans des frontières incertaines, de la copie au faux. Alors, copie, pastiche, faux, tous ces termes ont en commun d'être des variantes de ce qui allait devenir, à partir de la Renaissance, le concept clé de la théorie de l'art, et plus précisément de la peinture, le concept d'imitation. C'est-à-dire qu'il me semble impossible d'aborder la question du faux, de la copie, du pastiche en peinture, en dehors du cadre défini par la théorie de l'imitation, telle qu'elle fut élaborée à partir de la Renaissance, parce qu'elle a posé la question en nouveaux termes. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas besoin de la théorie de l'art pour copier, les Flamands le faisaient, mais l'exercice de la copie va acquérir un statut nouveau à partir de la Renaissance. Pourquoi à partir de la Renaissance ? Là, je suis obligée d'aller très vite, parce qu'après, il y a des anecdotes. Qu'est-ce qu'on avait comme concept d'imitation avant la Renaissance ? Ça venait de l'Antiquité, d'Aristote, en gros. Donc, on avait deux définitions de l'imitation artistique, de ce qu'on appelait la mimésis. L'art comme imitation de l'histoire, qu'on trouve dans la poétique, hein, et l'art comme imitation de la nature, qu'on trouve dans la physique. Donc, l'imitation était pensée comme imitation de l'histoire ou imitation de la nature. À ces deux définitions de l'imitation, la Renaissance va en ajouter une troisième, qui est l'art comme imitation de l'art. C'est-à-dire que la référence de l'imitation n'est plus l'histoire, le récit, ancien, biblique, etc., ni la nature, mais l'art lui-même, c'est-à-dire une définition de l'imitation qui renvoie à des modèles eux-mêmes artistiques. Ça, c'est ce que j'appellerais la conception proprement humaniste de l'idée d'imitation et donc de l'art. Donc, l'imitation des maîtres va jouer un rôle essentiel dans la formation de l'artiste, puisque l'art doit imiter l'art. D'où l'importance du voyage à Rome pour copier, pour apprendre à imiter les maîtres. Alors, quelques images. Ça, c'est l'avis de Taddeo Zuccaro, par Federico Zuccaro, donc on le voit à Rome, vous voyez, il est en train de copier, vous voyez, donc il copie des bâtiments, j'y reviendrai, c'est la chapelle de Michel-Ange, et on fait des relevés de monuments, on dessine les sculptures, etc. Alors qu'est-ce qu'on imite ? On imite la sculpture antique, ça c'est les exemples bien connus de sculptures antiques que l'on imite à partir de la Renaissance énormément, le Laocoon, l'Apollon du Belvédère, les Hercule Farnèse, la Vénus Médicis, etc. Alors, je vous donne quelques exemples. Ce magnifique dessin de Rubens, qui est une copie du Laocoon. Simon Vouet, un buste romain. Non, ça, c'est imitation de la sculpture. Hein. Bouchardon. Mais on imite aussi la sculpture moderne. Là, je reviens à Zuccaro dans la chapelle Médicis qui imite Michel-Ange. Et d'ailleurs, là, c'est très joli parce qu'il est reconnu par Michel-Ange. Oui, il met la main sur la tête. Bouchardon, encore, on imite beaucoup Michel-Ange. On dessine maintenant d'après la peinture moderne. Alors pourquoi d'après la peinture moderne alors qu'en sculpture, pour la sculpture, on imite la sculpture antique et la sculpture moderne, simplement parce qu'il n'y a pas de peinture antique. Donc on ne peut pas imiter de la peinture antique, toute la peinture antique a disparu. Donc on dessine d'après la peinture moderne. Alors, voilà quelques exemples. Michel-Ange d'après deux figures de Giotto à Santa Croce. Alors Rubens, le cadre Rubens, encore une fois tout à fait fascinant. Alors Rubens a pratiqué toutes sortes de copies, copies de la sculpture antique, copies de la peinture. Alors là, si vous avez Michel-Ange que vous reconnaissez, attendez, voilà, Raphaël, une copie de Raphaël. Alors ce qui est très intéressant, évidemment, je ne vais pas vous poser la question, mais je pense que vous reconnaissez lequel est de Rubens, c'est lequel est de Raphaël, parce qu'on voit que c'est une copie, mais en même temps, il y a quelque chose comme ça qui est la marque de Rubens. Et alors, mon préféré, c'est là-dedans, il y a la copie par Rubens du tableau de Titien. Alors, le tableau de Rubens a été peint en 1629. Alors, je n'ai pas eu la chance. J'ai vu les deux tableaux, mais je n'ai pas eu la chance de les voir comme ça a été à un moment. Il y a une exposition au Prado, l'un à côté de l'autre. Ça, j'aurais adoré les voir l'un à côté de l'autre. Et le tableau de Rubens, la copie de Rubens, correspond à sa période de maturité. Il était resté, ça c'est important, dans l'atelier du peintre de son vivant. C'est absolument magnifique. Et là aussi, on voit la différence entre les deux. Autre exemple, ça aussi, c'est une photo. Vous reconnaissez mes photos, elles sont toujours aussi mauvaises. Ça va être une copie. Donc, ça, c'est Rubens, donc à la galerie de Médicis. Et voilà, copie par Géricault. Alors, ça, c'est assez amusant, puisque Géricault a commencé par copier ça, vous voyez là. Et puis après, il l'a détouré. Il a enlevé le char. Et ce tableau est exposé au National Wildlife Museum dans le Wyoming. C'était un musée de la chasse. Magnifique copie. Alors évidemment, là, c'est très petit. On ne voit pas très bien. C'est Poussin copié par Degas. Poussin Degas qui se trouve au Norton Simon à Los Angeles. Alors, on a là une triple finalité de la pédagogique de l'exercice de la copie. On copie pour apprendre, on copie pour comprendre et on copie pour créer. On copie pour apprendre les procédés de la peinture, la techné, pour apprendre son métier. On copie les maîtres pour comprendre comment ils ont résolu un certain nombre de problèmes, ce qu'on appelait les difficultés de l'art. Et surtout, c'est en copiant qu'on va trouver son style propre. Il faut rappeler que le musée du Louvre a été créé autant, sinon plus pour les artistes que pour le public. L'étude et le progrès des arts sont les principaux motifs invoqués pour l'ouverture du musée, dont le rôle pédagogique va se trouver renforcé par la suppression des académies en 1793. L'ouverture officielle du musée en 1793 ainsi confirmera cette vocation éducative puisque l'accès au musée sera réservé aux artistes les 5 puis les 7 premiers jours de la décade révolutionnaire, le public n'étant admis que les 3 derniers jours. Donc on oublie toujours, on ne sait pas que le Louvre a d'abord été fait pour les artistes et pas pour le public. Et c'est très important, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'images, de gravures, de copistes au Louvre, et notamment ça a été très important pour les femmes. Un petit couplet féministe, mais je veux dire, c'est que là, je veux dire que on voit énormément de gravures, de dessins de femmes copiant, puisqu'elles n'ont pas mis dans les académies. Alors, la conception humaniste de l'imitation comme imitation des maîtres comporte cependant un danger dont tous les théoriciens de l'art ont été conscients, à la Renaissance comme à l'âge classique, celui de transformer une condition nécessaire en une condition suffisante. C'est-à-dire, le risque est grand de voir des peintres devenir de simples copistes et donc de ravaler la peinture au rang de métier. S'il n'y a pas d'art sans apprentissage du métier, la nouvelle définition de l'art comme activité libérale implique une autonomisation de la pratique artistique qui interdit de la réduire au rang de simple technique. Il importe donc de distinguer le principe d'imitation qui est au fondement de l'art de l'exercice par ailleurs nécessaire de la copie. C'est pédagogique, ça rentre dans la formation, mais l'art ne se réduit pas à cela. Et l'image qu'on va utiliser le plus souvent à partir du XVIIe siècle, c'est l'image de l'abeille qui butine à toutes les fleurs. On le trouve en littérature comme en peinture, d'ailleurs, dans la théorie littéraire comme dans la théorie de la peinture, c'est que l'artiste est comme une abeille qui butine à toutes les fleurs pour fabriquer un miel qui n'est qu'à elle. Donc il faut imiter, copier, etc., mais ne pas être un copiste. Mais la copie n'est pas seulement valorisée. Mais la copie n'est pas seulement valorisée en raison de sa fonction pédagogique. Pendant longtemps, on lui a également reconnu une valeur artistique. Là encore, il faut insister sur le fait que le système de valeurs à la Renaissance et à l'âge classique était très différent d'une autre, qui est lié au marché de l'art. Aujourd'hui, c'est le critère d'authenticité qui détermine pour nous la valeur d'une œuvre d'art, sa valeur économique aussi bien que sa valeur artistique. Pour nous, l'authenticité prime sur la qualité. Une bonne copie ou un excellent faux valent moins à nos yeux qu'un mauvais original. Or, cette hiérarchie de valeurs n'a pas toujours été de soi. Pendant longtemps, la qualité pouvait, sinon primer sur l'authenticité, du moins la contrebalancer. Cela ne signifie pas qu'on ne faisait pas de différence entre une copie et un original, mais on appréciait les copies pour leur qualité intrinsèque. Par exemple, Chanteloup, dans son journal de voyage du cavalier Bernin en France, raconte que Bernin admirait les copies de Raphaël par Mignard. Et par ailleurs, les copies répondaient à des fonctions précises sur le plan social. On en a une illustration par la preuve, par la création en 1670, sous l'autorité des bâtiments du roi, du cabinet des tableaux qui emploie des copistes. Et ça, c'est un fait significatif du rôle qui était dévolu à la copie et de la légitimité qui lui était reconnue. Les copistes du cabinet des tableaux détenaient l'exclusivité de la reproduction des portraits du roi et de la famille royale. Mais le directeur du bâtiment pouvait aussi faire appel parfois à des copistes extérieurs. Alors, ces copistes travaillent à partir des originaux, mais parfois aussi à partir de copies, oui, c'est comme des couches superposées, qui peuvent faire fonction d'original. Alors, ils sont dans l'ensemble beaucoup moins bien payés que les peintres, auteurs des originaux, mais certains réussissent à faire une très grande carrière en copiant les tableaux des grands maîtres. Le cas le plus intéressant à cet égard, c'est ce peintre qui s'appelait François Stimart, je ne sais pas comment on prononce, auquel le roi a commandé pour Marly une copie de la Nativité de Corrège. Alors, j'en ai un, mais ce n'est pas celui-là. Voilà. Mais c'est Stima. Et qui exécutera plus de 300 copies, dont certaines appartiendront à Göring dans son musée. On va rencontrer la figure de Göring à plusieurs reprises. Stimart était le beau-frère de François Lemoine. Il a été admis à l'Académie avec un morceau de réception qui était une copie d'un portrait de Louis XIV par Rigaud. Il a été admis comme copiste à l'Académie. C'est le seul, mais c'est quand même très intéressant qu'il ait été reçu à l'Académie au rang de copiste. Et il était très riche. Alors, maintenant, on va enfin passer au faux. La copie au faux. Alors, je commencerai par raconter deux histoires, vous les connaissez peut-être, qui sont les sortes d'anecdotes ou de récits paradigmatiques concernant la question du faux en peinture. Le premier, c'est le faux Raphaël, histoire du faux Raphaël peint par Andrea del Sarto. Oh non, pardon, ça c'est Stimart, voilà. Le faux Raphaël peint par Andrea del Sarto. Alors, l'histoire est racontée par Vasari. C'est le portrait de Léon X avec ses neveux. Qui est à Naples et qui est peint par Del Sarto et d'après le Raphaël qui est aux offices. Alors, Frédéric II, duc de Mantoue, qui passait par Florence pour aller rendre hommage au pape Clément VII, voit chez les Médicis, au-dessus d'une porte, un portrait peint par Raphaël du pape Léon X entre le cardinal Jules de Médicis et le cardinal de Rossi. Ce tableau lui plaît énormément et il demande au pape Clément de le lui offrir. Mais le problème, c'est que celui qui avait été chargé d'emballer le tableau et de le faire porter à Mantoue n'a pas voulu priver Florence d'un pareil chef-d'œuvre. Alors, à ce moment-là, il a fait venir secrètement Andrea del Sarto et lui a demandé de faire une copie du Raphaël. Andrea a fait tailler un panneau identique et a recopié jusqu'aux taches de saleté. On cacha le Raphaël et on envoya le tableau d'Andrea à Mantoue. Le duc n'y vit que du feu et même Jules Romain, qui avait été l'élève de Raphaël, fut trompé. La supercherie fut révélée par Vasari lui-même, celui qui raconte l'histoire, parce que Vasari avait vu Andrea travailler au tableau. Et Vasari a montré qu'Andrea avait fait une marque au dos du tableau pour qu'on sache qu'il en était l'auteur. Il a dit, regardez là, oui, je sais que derrière le tableau, il y a une marque, hein, et c'est la marque d'Andrea del Sarto. Et voilà le commentaire que fait Vasari. Entendant cela, Jules Romain fit retourner le tableau, vit la marque, haussa les épaules et dit « Je ne l'estime pas moins que s'il était de Raphaël, et même plus encore, parce que c'est une chose surnaturelle qu'un homme soit assez remarquable pour copier la manière d'un autre, au point de parvenir à une imitation aussi parfaite. » Et cela suffit à montrer, ajoute Vasari, qu'Andrea avait autant de talent en travaillant seul qu'en imitant les autres. La deuxième histoire paradigmatique, c'est racontée aussi par le faux Cupidon de Michel-Ange. Michel-Ange avait fabriqué un faux antique, un faux Cupidon, un Cupidon endormi, avec la complicité de quelqu'un, donc d'ami, il a vendu ce Cupidon. Et l'acheteur, quand l'acheteur s'aperçut de la supercherie, il voulut être remboursé et rendit le Cupidon. Et Vasari écrit. Cette affaire, l'acheteur c'était le cardinal Saint-Georges. Cette affaire ne s'acheva pas à la gloire du cardinal Saint-Georges. Il fut incapable de reconnaître la valeur de l'œuvre qui réside dans sa perfection et ne comprit pas que les ouvrages modernes sont aussi beaux que les antiques, si excellents que soient ces derniers, et qu'il y a beaucoup de vanité à s'attacher plus aux mots qu'aux faits. Alors dans les deux cas, le commentaire de Vasari peut paraître surprenant au regard des critères qui sont les nôtres et de nos propres présupposés ou préjugés. D'abord parce qu'aux yeux de Vasari, le fait qu'il s'agit d'un faux, découvrir que c'est un faux, n'ôte rien à la valeur de l'œuvre. Bien au contraire. La révélation de la supercherie ne modifie aucunement le jugement préalable qu'il avait porté sur le tableau quand il le croyait de Raphaël. À la différence du cardinal Saint-Georges, comme il le dit lui-même, Vasari savait apprécier une œuvre pour ses qualités propres et non pas pour ce qu'on savait de l'histoire du tableau. Alors, ces deux anecdotes montrent également que la fabrication d'un faux ne répond pas nécessairement ou pas seulement à une intention mercantile, contrairement à ce qu'on a tendance à croire aujourd'hui dans notre système dominé par les lois du marché. On peut fabriquer un faux à des fins politiques, comme le faux Raphaël, pour se moquer d'un rival, pour prouver son talent, ce qui n'est évidemment pas incompatible avec l'idée d'en retirer un intérêt pécuniaire, comme dans le cas de Michel-Ange. L'anecdote concernant le faux Raphaël présente en outre l'intérêt d'inclure un peintre, et pas n'importe lequel, parmi les victimes de la tromperie. Si vous vous souvenez bien, le tableau de del Sarto n'a pas seulement trompé son destinataire, le duc, mais également Jules Romain, c'est-à-dire quelqu'un qui avait travaillé aux côtés de Raphaël et qui était donc le mieux à même de juger de son authenticité. C'est ce qui explique que Jules Romain, une fois la supercherie révélée, puisse juger ce faux, ou plutôt cette copie, parce qu'à ce moment-là, une fois découvert, le tableau n'est plus un faux. Donc il ait pu juger cette copie comme supérieure en un sens à l'original et n'hésite pas à dire qu'il ne l'estime pas moins que s'il était de Raphaël. Or, si l'histoire de l'art a retenu ces deux anecdotes qui vont très vite acquérir valeur de paradigme, c'est précisément parce que dans ces deux cas, le faux n'est pas fabriqué par un faussaire, mais par quelqu'un qui est connu et reconnu comme l'auteur des œuvres qui lui sont attribuées et qui peut les revendiquer comme siennes. Qu'est-ce que j'en veux dire par là ? Je veux dire par là que l'auteur du faux, alors le français n'a pas un vocabulaire aussi riche que l'anglais pour ça, l'auteur du faux au sens de maker, celui qui le fabrique. dans le cas, dans les cas que je viens de citer, et quelqu'un dont le nom est un nom d'auteur, author, hein, c'est ce que j'appellerais un artiste, hein, tout en ayant conscience du caractère un peu anachronique de ce terme quand on l'applique à la Renaissance. Au contraire, le faussaire travaille toujours sous un prête-nom. Hein. Le faussaire est quelqu'un qui usurpe le nom d'un autre. Le faussaire réalise une œuvre qui est attribuée à quelqu'un d'autre, une œuvre qu'il ne peut pas revendiquer comme étant sienne, qu'il ne peut pas signer de son propre nom. Alors, juste une parenthèse, c'est la différence entre le faussaire et le plagiaire. Le plagiaire s'attribue quelque chose dont il n'est pas l'auteur. Le faussaire attribue à un autre quelque chose dont il est l'auteur. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler le fait que le faussaire ne puisse jamais revendiquer en son propre nom ce qu'il fait. C'est ce que j'appellerais, moi, le drame ou la tragédie du faussaire. Le faussaire est nécessairement voué à rester inconnu. Le faussaire ne peut jamais être reconnu comme l'auteur de ce qu'il fait, sous peine de devoir cesser de le faire. C'est ce qui explique sans doute que de nombreux faussaires, une fois leur activité frauduleuse révélée, et donc quand ils ne peuvent plus exercer leur activité de faussaire, écrivent leur autobiographie, ou acceptent qu'on écrive leur biographie, passent à la télévision, apparaissent dans des films, et font même l'objet d'expositions. Démasqués, ils peuvent enfin dire « je ». Tant qu'ils étaient masqués, tant qu'ils travaillaient sous le masque du faussaire, ils ne pouvaient pas dire « je ». Hein ? Bon. Démasqués, ils peuvent enfin dire « je », acquérir une célébrité en leur nom propre. Ils peuvent enfin être reconnus. Alors, quelques exemples. Bon. Ça, c'est une image du sublime film d'Orson Welles qui s'appelle « F for Fake ». Donc, c'est Elmire de Haut qui tourne autour de ce faussaire, Elmire de Horry, mais beaucoup plus que ça, puisque c'est toute une conception de l'art que développe Orson Welles dans ce film. Hein. Donc, voilà, Elmire, et Welles envoie off, il dit « Who is Elmire ?» Qui est Elmire ? Ça, c'est Beltracchi, il a beaucoup fait parler de lui récemment, dans un documentaire qui a été fait en 2014. Oui, donc, il s'est fait filmer en train de fabriquer un faux. Enfin, là, on savait que c'était des faux. Une exposition de Elmire de Horry, vous voyez, Artist and Faker. Mais ce n'est plus des faux. Enfin, c'est des statues très compliquées, vous voyez, c'est qui sont exposées. Autre exemple de faussaire, démasqué comme faussaire. C'est des histoires très compliquées, mais là, il faudrait que vous restiez jusqu'à 11h du soir, donc je vous les évite. C'est une histoire. C'est John Myatt, donc c'est une exposition de John Myatt aussi, qui lui a été consacrée. Alors, je crois que c'est tout. Oui. C'est pourquoi il convient de distinguer les faux d'artistes et les faux de faussaires, même si la distinction n'est pas toujours simple. Andrea del Sarto a fait un faux Raphaël, mais il n'est pas le faussaire de Raphaël. Comme Van Meegeren, dont je parlerai tout à l'heure, est le faussaire de Vermeer, ou Beltracchi, celui de Max Ernst. Del Sarto est l'auteur des tableaux qu'on lui attribue. Et d'ailleurs, il a pris le soin de bien laisser un indice au dos du tableau, qui est comme une signature masquée, l'équivalent d'un Del Sarto fake it. C'est Del Sarto qui l'a fait, une marque d'auteur, que l'on retrouve dans nombreux faux d'artistes. Lorsque Luca Giordano fut poursuivi par le prieur de la Chartreuse de Naples pour une falsification d'Albrecht Dürer, il fut acquitté par le tribunal, qui considéra comme un mérite louable d'avoir réussi à imiter la manière difficile de Dürer. Et Giordano avait signé en caractère microscopique. Alors, l'histoire de l'art... Vu le temps qui passe, je vais être obligée de raccourcir mes anecdotes, mais l'histoire de l'art fourmille d'anecdotes concernant ces faux qui sont l'œuvre d'artistes. Ces anecdotes sont toutes des variations autour des deux histoires rapportées par Vasari, l'histoire de Del Sarto et l'histoire de Michel-Ange. Alors, très vite, quelques exemples. Sébastien Bourdon, dont on dit qu'il était doué d'une mémoire exceptionnelle, qu'il était très doué. Il travaillait dans l'atelier de Claude Lorrain. Et il a regardé Lorrain travailler un paysage qu'il n'a pas fini. Bourdon a copié ce qu'il a vu. Il a fini le paysage auquel travaillait Lorrain. Il l'a exposé comme un tableau de Lorrain. Et Laurent a dit, mais non, c'est pas... Quand on est venu féliciter Laurent pour la qualité de ce paysage, il a dit, mais non, c'est pas moi qui l'ai fait. Puis venez voir dans l'atelier, il n'est pas fini encore, mon paysage. Il n'en a pas voulu du tout à Bourdon, il a trouvé admirable. Enfin, il a rendu hommage à son talent. Mignard, l'histoire de Mignard est assez drôle. Mignard avait fait un pastiche du guide de Guido Reni qu'il avait vendu très cher à un collectionneur comme un tableau authentique. Alors, peu après, ce collectionneur qui soupçonnait Mignard de l'avoir trompé, se tourna vers Mignard pour lui dire « C'est vous l'auteur de ce tableau ?» Et Mignard a dit « Ah non, comment Dieu, c'est pas moi du tout. » Et pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à Lebrun, le grand spécialiste, de trancher ? Lebrun examine le tableau avec beaucoup d'attention. Il déclare que le tableau était bien de Guido Reni. Mignard, qui n'attendait que ce moment pour ridiculiser son rival, révèle alors la supercherie en montrant la marque, là encore, c'est un tout petit chapeau de cardinal, comme ça, qu'il avait dissimulé dans le tableau. Hein. Triomphant, Mignard rendit l'argent, reprit le tableau. Alors, pour apprécier le sel de cette histoire, il faut savoir que Mignard s'était toujours opposé à Lebrun. Hein, voilà un portrait de Mignard et Lebrun, par Hugo, et que ce n'est qu'après la mort de Lebrun qu'il accepta de devenir membre de l'Académie. Hein. Il était vraiment ennemi. Hein. Alors, on a comme ça beaucoup d'histoires, là, je ne peux pas les raconter, mais qui tournent toujours autour du même schéma, notamment en Italie, il y a des histoires concernant les Caraches, l'histoire concernant Canova. Je m'arrêterai à l'histoire célèbre, une des histoires les plus célèbres concernant le faux antique que Winckelmann prit pour un original. Winckelmann avait entendu parler d'une peinture murale antique qui avait été acquise par un officier français vivant à Rome. Donc il a la voir cette peinture murale et il fut transporté d'enthousiasme en voyant la fresque et inclut une description de l'œuvre dans la première édition de son Histoire de l'art chez les anciens. Voilà. Mengs, son disciple, confessa sur son lit de mort en 1789 qu'il était l'auteur de cette peinture et demanda à sa sœur de publier la vérité. Bon, il y a aussi des exemples. Alors, Courbet qui a fait un faux Franz Hals, la Malébabe, après l'avoir vu à Munich. Alors, Courbet raconte qu'il substitue un jour sa copie à l'original sans que personne s'aperçoive de la substitution. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce qu'il est assez vantard, Courbet. Mais bon. En tout cas, ces anecdotes concernant des faux faits par des artistes appartiennent toutes au corpus de l'histoire de l'art. Elles sont racontées dans les vies d'artistes et légitimées par les biographes et les historiens de l'art. C'est ce qui les distingue des anecdotes qui se rapportent à ceux que j'appelle les vrais faussaires, c'est-à-dire ceux dont l'activité artistique consiste principalement, voire uniquement, à fabriquer des faux. Ces anecdotes concernant les vrais faussaires n'appartiennent pas à la noble histoire de l'art, mais à la longue histoire des crimes artistiques. Par ailleurs, à la différence des vrais faussaires, les artistes, à quelques exceptions près, ne cherchent guère à tirer des faux qu'ils fabriquent un profit réel, mais plutôt un profit symbolique. Ils veulent se moquer des experts et montrer leur supériorité. Mais se moquer des soi-disant experts, des experts, peut être aussi l'une des motivations du vrai faussaire. Alors maintenant j'arrive, c'est ma dernière partie. Je me dépêche. Ça peut être l'une des ma dernière partie, c'est sur les vrais faussaires. C'est en tout cas, se moquer des experts, c'est ce que j'appellerais le principe de sa jouissance. Je cite un faussaire de génie dont je vais vous parler tout de suite. « Seuls les experts valent vraiment la peine d'être trompés. Et le plus grand est l'expert, plus grande est la satisfaction de le tromper. » Alors celui qui a dit ça s'appelle Eric Heborn, voilà, qui a publié... deux livres. Le premier, c'est The Art Forger's Book, donc le manuel du faussaire, hein, Il Manuale del Falsario. Alors, Heborn est mort assassiné à Rome en 1996 dans des circonstances qui restent obscures encore aujourd'hui, puisqu'il est mort assassiné après avoir publié son second livre, celui-là, où il révélait tout un ensemble de secrets. En 1991, il avait publié son autobiographie « Master Faker, The Forging of the Artist ». Alors, Eric Heborn est quelqu'un qui a étudié à la Royal Academy à Londres, où il a obtenu un prix et une bourse de 2 ans pour Rome. C'est un immense dessinateur. étudiant, il a travaillé pour un restaurateur. Je demande de retenir cette question de la restauration qui va intervenir à nouveau. Où il a appris que les limites entre restaurer et peindre, si je le cite, ne sont pas toujours claires. Et Born se spécialisa dans les maîtres anciens. Excellent dessinateur, son activité principale consistait, alors c'est là l'idée de génie, si je puis dire, son activité principale consistait à faire des dessins préparatoires pour des tableaux existants. On est les tableaux, donc ce n'est pas des copies. Et puis, il inventait les dessins préparatoires. Les faux qu'il réalisait étaient donc des originaux. Ces dessins ont été authentifiés par... Alors, là, j'en ai juste un. Bon, un bateau. Ces dessins ont été authentifiés par des experts et des historiens de l'art, comme notamment Sir Anthony Blunt. Ils ont été vendus chez Christie's, Sotheby's et surtout Colnaghi. Et Born dit avoir réalisé environ un millier de faux dessins attribués à Castiglione, Mantegna, Rubens, Bruegel, Van Dyck, Boucher, Poussin, Piranesi, Tiepolo, Watteau. Alors, c'est difficile de savoir là, s'il dit la vérité. Il ne faut pas oublier que le faussaire est un menteur. Et Born s'est même attribué la paternité d'œuvres qui se sont avérées être authentiques. C'est-à-dire qu'il brouille complètement les cartes. Il dit non, ça c'est de moi. Et puis, des recherches ont montré que c'était authentique. Alors, des tas de dessins de Born sont aujourd'hui dans des collections privées ou publiques. Voilà. En ce sens, on peut dire que Born prouve qu'il est possible de réaliser ce qu'on peut appeler des faux parfaits. Et dans son autobiographie, il contredit d'ailleurs longuement une thèse très célèbre que défendent encore aujourd'hui souvent les historiens de l'art. C'est la thèse de Max Friedlander, selon laquelle un faux parfait n'existe pas parce qu'un faux porte nécessairement la marque de son époque. Donc il y a toujours quelque chose dans un faux qui trahit l'époque à laquelle vit le faussaire. Voilà ce que dit Born. C'est le genre de théorie. C'est tout simplement faux de croire que le style de l'œuvre d'un artiste reflète toujours l'époque à laquelle elle a été faite. C'est le genre de théorie agréable et commode qui donne aux savants le sentiment agréable que d'une manière ou d'une autre, les faux sont toujours détectables. Puis je saute. Ça, c'est mon premier exemple de faussaire. Le deuxième, c'est un exemple de restaurateur. Vous vous rappelez que Born dit qu'il a appris comme ça un peu son métier de faussaire chez un restaurateur. Alors, ce restaurateur s'appelle Van de Wecken. Alors, Van de Wecken était un restaurateur spécialisé dans les primitifs flamands, qui a restauré un plus grand restaurateur flamand, de primitifs flamands, et qui a restauré entre autres les panneaux représentant Adam et Ève dans le retable de l'agneau mystique de Van Eyck. Et c'est à lui qu'on a demandé de faire une copie d'après un document photographique du panneau des juges intègres pour remplacer celui qui avait été volé en 1934. Vous voyez, bon là c'est une photo de Van de Wecken faisant, d'après une photo, mais ça c'était tout à fait officiel, on lui a demandé de faire, puisque le panneau avait été volé. Donc quand vous allez voir ce rétable, il y a le panneau des juges intègres a été peint par Van de Wecken. Mais il devait déjà à cette époque, quand il faisait ses copies sur commande officielle, exercer ses talents de faussaire, puisque dès 1911, Max Friedlander, dont j'ai déjà parlé plus haut, avait mentionné dans une conférence sur le faux l'existence d'un certain Van de Wecken, faussaire et marchand. Alors, autour des années 20, Van de Wecken rencontre un banquier, Émile Renders, collectionneur de primitifs flamands. Renders se targuait d'être un expert. Il donnait des conférences, publiait des articles et s'était lancé dans de violentes attaques contre des historiens de l'art et des spécialistes qui contestaient sa thèse selon laquelle Robert Campin et le maître de Flémal étaient une seule et même personne. Ça, c'est un grand débat qui dure encore aujourd'hui. Voilà. Donc voilà les ouvrages publiés par Émile Renders. Sa collaboration avec Van de Wecken fut pour Émile Renders l'occasion de se venger des experts, parce que tous les experts étaient contre sa thèse, du point de vue de l'histoire de l'art. Pour répondre à la demande de Renders et à celle d'un marché dominé par la vogue des primitifs, Van de Wecken ne se contentait pas de noyer les toiles ou de combler les lacunes, il pratiquait ce qu'on a appelé depuis l'hyper-restauration. Il fabriquait des faux primitifs à partir de tableaux authentiques en très mauvais état. Il n'hésitait pas à les transformer, les repeindre, à gratter la toile pour effacer, et même à ôter ce qui restait, pour effacer les traces de l'ancienne peinture. Alors, un exemple, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je voudrais prendre un peu plus de temps pour le deuxième, c'est la Madone de Tournai, c'est une Vierge à l'enfant qui est à Tournai et qui a été récupérée. Enfin, si, je suis quand même obligée de raconter l'histoire très rapidement. Elle apparaît sur le marché en 1924 et elle passe pour le volet gauche d'un diptyque, bon, peu importe. L'œuvre est achetée en 1924 par Emil Renders, qui la vend en 1943 à Göring. Elle est récupérée par les Alliés à la Libération et elle est restituée à ce moment-là à l'État belge, qui la met en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Tournai au titre de dommages de guerre. Seule œuvre de Roger van der Weyden conservée dans sa ville natale, ce tableau devait occuper une place de choix au sein de l'exposition que Tournai s'apprêtait à consacrer au maître en l'an 2000, à l'occasion du 600e anniversaire de sa naissance. En septembre 1999, un an avant l'ouverture de l'exposition, ce tableau est démasqué comme un faux. Un an plus tard, les techniques d'investigation scientifique, dendrochronologie, microfluorescence, etc., révèlent l'ampleur de la fraude, tout ou presque est faux, jusqu'au micro-réseau des craquelures qui couvrent le tableau. Et les radiographies ont révélé que sous la Vierge à l'enfant, il y avait une peinture lacunaire et dégradée datant du 15e siècle. Alors, on a retrouvé dans les archives, peu importe, hein, voilà, vous avez ici un cliché qui date d'avant de la guerre de 14, enfin à peu près cette année, et donc de ce qu'était le tableau et de ce qu'on a, et voilà à droite ce qu'on a fait Van de Weken. Ça c'est entre la première, c'est un cliché qui date entre la Première Guerre mondiale et 1924. Voilà, ça c'est un exemple d'hyper-restauration. Mais le chef-d'œuvre absolu ou incontestable de Van de Weken reste ce tableau connu aujourd'hui comme sous le nom de la Madeleine Renders. Voilà. Alors, ce tableau est une copie de la Madeleine du triptyque Braque de Van der Weyden qui est entrée au Louvre en 1913. En 1920, Renders acquiert un tableau d'un primitif flamand dont on peut remonter les traces jusqu'en 1870, en très mauvais état. Et il demande à Van de Weken de le restaurer. Le tableau restauré est exposé en 1927, dans une exposition à Londres, et présenté comme une copie d'époque attribuée à Memling. Alors ça, c'est très malin, hein, parce que là, vous avez l'original, et là, vous avez le tableau qui est exposé en 1927 comme une copie d'époque attribuée à Memling. Et ce qui est très malin, c'est que vous voyez, il y a des variations, comme c'est attribué à Memling. Hein, donc, le faussaire, puisqu'il s'avère, on va découvrir plus tard que c'est un faux, en fait, a introduit des petites variations par rapport à l'original. Bon, dans cette exposition, il y a eu beaucoup de faux, beaucoup de découvertes de faux, mais pas la Madeleine Renders. Hein. Sauf qu'un amateur qui était chimiste de son métier, qui avait vu le tableau en 1920, avant la restauration, lorsqu'il avait été vendu à Renders, publie un article en disant « c'est pas possible, hein. Ce tableau-là qui est exposé en 1927 ne ressemble absolument pas à la croûte que j'ai vue 7 ans plus tôt. » Voilà la croûte. Donc voilà le tableau tel qu'il a été vendu, tel que l'a acheté Renders, et voilà ce que c'est devenu après. Personne n'écoute ce Delacre. Le tableau disparaît en 1940, et après 1940, on ne le connaît que par des photographies en noir et blanc, et il est toujours attribué à Memling. Le tableau réapparaît en 2004. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre 1940 et 1941, Emil Renders avait vendu l'ensemble de sa collection de primitifs, 20 tableaux, à Göring, par l'intermédiaire d'un marchand, Alois Middel, homme de confiance du maréchal, qu'on retrouve beaucoup, cet Alois Middel, et dans beaucoup d'affaires, y compris des affaires récentes. Une partie des tableaux fut transférée dans sa résidence de Karin Hall, l'autre vendue ou échangée contre des œuvres de maîtres anciens. Après la libération, la restitution de la collection Renders devient une priorité pour l'Office de récupération économique, chargé de retrouver les biens spoliés à l'État belge. Seulement une moitié de la collection Renders a pu être récupérée. Alors là, il y a une jolie revanche de l'histoire, revanche de l'expert, puisque l'homme chargé de la mission de récupération était le colonel Léo van Puylveld, l'historien de l'art, auquel Renders s'en était pris, qu'il avait insulté au moment quand il, de l'affaire du maître de Flémal et de Robert Campin. Là, vous avez une photo de très jolie de Van Puyvel dans vous voyez, l'Art Collection qui est découverte. Et là, voilà, à Berchtesgaden. Alors, en 1946, Middle, le marchand, est signalé en Espagne en possession d'une partie de la collection Renders et la Madeleine fait partie du lot. Dans le courant des années 60, Middle vend la Madeleine à un collectionneur scandinave et en 2004, le fils du collectionneur scandinave qui avait hérité de son père de ce tableau l'apporte tout à fait innocemment pour expertise et restauration à l'IRPA, qui est l'Institut Royal du Patrimoine Artistique à Bruxelles. Mais on savait déjà, et je ne vous dirai pas comment et pourquoi, parce que ce serait trop long, mais on savait déjà à ce moment-là que ce tableau, dont on avait enfin retrouvé la trace, était un faux. Et son propriétaire, qui venait l'apporter innocemment pour qu'on le nettoie, en fut pour ses frais, puisqu'il fut conservé dans les locaux de l'IRPA, où il est toujours. Alors, je l'ai vu, ce tableau. Quand la conservatrice en chef du département me l'a apporté, elle a reconnu qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi parfait. C'était ses propres termes. On a là, en effet, un exemple de faux parfait qui donne raison à Eborn, à Eric Eborn, lorsqu'il affirme, contre Friedlander, qu'il est possible pour un maître faussaire d'échapper aux caractéristiques de son époque. Et donc, on a là un exemple de faux parfait qui s'inscrit en faux contre la thèse de Gombrich, Ernst Gombrich, grand historien de l'art. C'était quoi la thèse de Gombrich ? Qui est très juste par ailleurs, on ne voit que ce qu'on sait, disait Gombrich. Certes, sauf que dans ce cas, la perception n'est nullement altérée par le savoir. Elle reste inchangée. J'ai beau savoir que c'est un faux, quand je le vois, rien ne me permet de le... Il est impossible de le voir. C'est exactement le contraire, et ça va encore un peu de patience, ce sera mon dernier exemple. C'est exactement le contraire de ce qui se passe avec Van Meegeren, le faussaire sans doute le plus célèbre de l'histoire du faux dans l'art. Alors, je raconte très brièvement l'histoire de Van Meegeren. C'était un peintre, voilà. Bon, ceci, oui. Il faisait des tableaux dans ce genre-là, qui souffrait beaucoup d'être méconnu, et donc qui a décidé de se venger, encore une fois, de la critique des experts, etc. Et donc, il a décidé de faire un faux Vermeer. Alors, pourquoi un faux Vermeer ? D'abord, l'histoire du faux suit toujours l'histoire du goût. Hein. Donc, on fait des faux de peintres qui sont en vogue, à la mode, etc. Bon. Donc, il a mis beaucoup de temps pour faire ce faux. Et il a eu cette idée tout à fait remarquable de faire un faux tableau religieux de Vermeer, parce qu'il n'y avait aucun tableau religieux de Vermeer connu à cette époque, et parce que le plus grand spécialiste de Vermeer, Bredius, qui était vieux à cette époque, enfin, qui était vraiment le grand spécialiste de Vermeer, disait qu'il devait y avoir une période comme ça, un tableau religieux de Vermeer, et donc faire un faux, c'est important pour comprendre l'histoire du faux. Van Meegeren a fabriqué un faux qui correspondait à un horizon d'attente. C'est pour ça que ça marche. Mais ça, c'est le principe de la croyance. On ne peut pas faire croire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Il faut que ça corresponde à un horizon d'attente. Hein. Et donc, Van Meegeren fait ce et garde toutes les traces. Parce que lui, son idée, c'est de révéler la supercherie après, pour dire, vous voyez, vous êtes nul, etc. Bon, hein. Donc, de manière très compliquée, le tableau est exposé, il est acheté par les musées royaux. Il y a une grande exposition, il l'a raconté, hein, tout ça, Van Meegeren, il est à l'inauguration, sa jouissance devait être immense, puisque devant le tableau, il dit aux gens, mais non, vous voyez bien que c'est un faux, les gens ne savaient pas qui il était, hein. Il manquait de se faire lyncher, enfin bon, bref. Et Il se dit que ça lui a rapporté quand même pas mal d'argent, donc il décide d'attendre avant de révéler. Il dit, je vais en faire un deuxième, et puis un troisième, et puis, mais il garde toutes les traces hein, quand même. Et donc, il commence à fabriquer pas mal de faux, d'autres Vermeer, des Peter de Hoorn, etc. Il s'achète une villa sur la Côte d'Azur, des voitures de sport, il mène la grande vie, il se drogue, etc. Arrive la guerre, et après la guerre, l'État fait une enquête sur les fortunes qui se sont constituées en collaboration avec les Allemands pendant la guerre. Et on tombe sur le cas de ce Van Meegeren accusé d'avoir vendu des tableaux hollandais aux Allemands. Ouais. Et là, Van Meegeren, pour se défendre, dit « Ah non, pas du tout. J'ai fait acte de résistance. Les tableaux que j'ai vendus étaient tous des faux. » On n'a pas voulu le croire. Donc, il était en prison. Hein, on n'a pas voulu le croire. Là, je laisse, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont jamais vu les tableaux, je laisse planer un peu le suspense parce que je vais vous les montrer. Il était en prison, il a dit « Apportez-moi tout le matériel, etc. Je vais vous peindre un faux Vermeer. » Et il a peint un Vermeer en prison qui a été filmé. Il y a eu son procès, il a été acclamé comme un héros. Il est mort, il était tellement drogué qu'il est mort peu de temps après le procès, je ne sais plus, enfin il a été très peu puni. Alors, c'est là où les images deviennent intéressantes. Voilà le tableau. Réservez votre jugement. Quand on voit le tableau, je l'ai vu. Hein. Puis il y a eu une exposition Van Meegeren dont je vais vous montrer les images. On ne peut pas ne pas s'étonner du fait qu'on l'ait pris pour un Vermeer. Alors, voilà l'exposition, quand l'exposition originale ou originaire, si vous voulez, hein, quand c'était en 58, voilà. Donc, vous voyez comment a été présenté le tableau, ça a été acheté par le musée de Rotterdam. Donc, le tableau était là, avec le tapis, etc. Bon. Le musée de Rotterdam a reconstitué en 2010, je suis allée, l'exposition originale de Van Meegeren. Bon, alors, ça, c'est une photo originale, je l'adore. C'est les deux experts admiratifs devant, devant le tableau de Van Meegeren. Hein, les textes sont extraordinaires, mais... alors, ça, c'est la reconstitution en 2010, où j'étais, mais comme je prenais la photo, vous ne me voyez pas dessus. Et vous voyez, ils ont fait le tapis, ils ont mis le tableau, etc. Donc, il y avait dans les vitrines les affiches de l'exposition originale de 2010, avec bon, l'article de Bredius qui dit que c'est une grande découverte en histoire de l'art. Alors, bon, à sa décharge, il faut dire qu'il avait 80 et quelques années, Bredius, sa vue avait dû baisser, etc. Hein, donc, voilà, « A new Vermeer, it's a wonderful moment in the life of... » etc., etc., j'ai pas le temps, voilà. Ça, c'est un autre Vermeer, faux Vermeer, que Van Meegeren a peint, qui a été vendu d'ailleurs à Göring, toujours par ce Middle, qu'on rencontre tout le temps, et qui est lié à, je sais pas, ça vous avez dû entendre parler récemment, l'affaire Gurlitt, vous savez, celui dont on a dit, enfin, ce vieux monsieur qui vivait en Autriche et qui avait cette énorme collection de tableaux. En fait, c'était Middle qui avait été l'un des intermédiaires du père hein, pour vendre les tableaux. Donc, ce Middle qui n'a jamais été inquiété, qui est mort tranquillement dans son lit, est quand même une figure qu'on retrouve dans énormément d'histoires de faux à cette époque. Voilà un faux. Alors, là, je vous montre des faux Van Meegeren. Hein. D'autres qu'il a fait. Alors, qui est. Un pastiche de Franz Hals, ou un faux Franz Hals. Ça, c'est une photo à moi. C'est encore Van Meegeren. Alors voilà, ça, c'est Van Meegeren peignant en prison. Ça, c'est au procès, avec le tableau qui est là. Voilà. Je crois que c'est ma dernière image, oui. Voilà. Alors, ma conclusion, c'est que je voudrais souligner plusieurs points. D'abord que les pèlerins d'Emmaüs, plus que pour deux minutes, et je vous lâche, hop, hop, je reviens en arrière, sur les pèlerins d'Emmaüs. Voilà. Les pèlerins d'Emmaüs est un original. Ce n'est pas une copie ni un pastiche. Hein. C'est un original puisque ça, voilà, il a inventé un genre qui est la peinture religieuse de Vermeer. Au contraire de ce qui se passe avec la Madeleine Renders, hein, de Van de Wecken que je vous montrerai tout à l'heure, ce tableau confirme en revanche l'affirmation de Gombrich selon laquelle on ne voit que ce qu'on sait. Ça, ça le confirme. Pourquoi ? Parce qu'il est indéniable que le savoir que nous avons, nous, à propos de Van Meegeren, modifie complètement notre perception du tableau. Quand on le voit aujourd'hui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on ne peut que s'étonner qu'on ait pu le prendre pour un Vermeer. Pour nous, ça saute aux yeux que ce n'est pas un Vermeer. Plus il peignait dans le genre un peu surréaliste, Van Meegeren, enfin, ça ne ressemble absolument pas à un Vermeer. Mais il faut être modeste. Je veux dire, on n'est pas forcément plus fort que les gens qui l'ont cru. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe, hein? Je dirais même que de tous les faux fabriqués par Van Meegeren, c'est peut-être celui qui ressemble le moins, qui est le moins ressemblant. Hein? Et pourtant, on a vu et on a longtemps cru que c'était une œuvre magnifique de Vermeer. D'où ma question, et ce sera ma question de conclusion. Comment regardons-nous ces tableaux, nous qui savons que ce sont des faux Vermeer? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ces tableaux? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que je vois quand je regarde ces faux Vermeer? Je précise ma question. Quand je regarde un dessin de Watteau ou de Fragonard, que je sais, alors gardez toujours en mémoire la phrase de Gombrich, on ne voit que ce qu'on sait. Quand je regarde un dessin de Watteau ou de Fragonard, que je sais être fait par Hepburn, je vois un faux Watteau ou un faux Léonard. Quand je regarde un Memling ou un Van der Weyden que je sais avoir été hyper restauré par Van de Wecken, je vois un faux Memling ou un faux Van der Weyden. Quand je regarde un Max Ernst ou un Campedank que je sais avoir été peint par Beltracchi, je vois un faux Max Ernst ou un faux Campedank. Mais quand je regarde les pèlerins d'Emmaüs, je ne vois pas un faux Vermeer. En tant que faux, c'est un mauvais tableau. Je vois un vrai Van Meegeren. Et donc, on arrive à ce paradoxe qu'en contrefaisant Vermeer, Van Meegeren a réussi à devenir un auteur, un artiste, à faire une création originale en son nom propre, et c'est sans doute à cela qu'il doit sa célébrité. Je vous remercie.